Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
9h-10h tous les samedis avec Dominique Soucier.
Bonjour. Pour ponctuer le troisième jour, uniquement la manifestation. Cette fois, il n'y aura pas de grève puisque ce sera samedi prochain. L'invité de C'est arrivé cette semaine est Annick Coupé, la porte-parole de Solidaires et des syndicats Sud. Elle aurait voulu des mouvements de grève reconductibles. Elle va nous dire pourquoi, sans la signer, elle s'est néanmoins ralliée à la décision de l'intersyndicale face à la réforme des retraites. Pendant plusieurs jours, nous avons cru qu'une femme kamikaze allait commettre un attentat en France, et c'était faux. Qui l'a fait croire à qui et pourquoi? Avant de devenir homme politique, Alain Marceau était juge d'instruction en charge de l'antiterrorisme, puis il s'en est mêlé comme procureur. Comment majorer la menace alors que depuis 5 ans, elle est déjà au plus haut? Aux États-Unis, la justice qui exécute une nouvelle condamnation à mort. J'ai invité Simon Grivet, agrégé d'histoire, qui écrit une thèse sur la peine capitale aux États-Unis. Avec notre bonne conscience, nous nous répétons que les Américains sont moins indignés que nous. Est-ce vrai? Enfin, Jeanne Balibar, elle joue depuis mercredi au théâtre de l'Odéon la cerisée de Tchekhov. Et nous nous souviendrons de mercredi parce qu'il faisait si beau et que c'est aussi arrivé cette semaine. C'était mercredi, le dernier jour de l'été. Allez, à tout de suite avec, dans un instant, Annick Coupé.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
9h-10h chaque samedi sur Europe 1.
Avec Dominique Soucier, c'est arrivé cette semaine.
Elle manifestait à Lille.
Non, elle n'est pas passée, elle doit encore passer au Sénat. Et nous, on ne veut pas qu'elle passe la loi. Et c'est surtout les femmes qui vont être pénalisées. Et après les femmes, ça sera qui? Ben, ça sera les hommes. Donc voilà, il faut refuser ce projet et point, bah.
Et elle, c'était à Paris.
Bah, s'il doit se durcir, le conflit va se durcir. De toute façon, s'il veut des grèves comme en 95, et bon, on fera des grèves comme en 95 et puis c'est tout. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que tout le monde descende dans la rue. Et pas toujours les mêmes.
Et ce qu'annonçait dès jeudi François Chirac.
Il y aura une suite, certainement, on va le décider collectivement. La façon dont se déroule la journée, en particulier le fait qu'il y a un peu moins de grévistes, mais un peu plus de manifestants, montre que l'idée d'une journée d'action un samedi ou un dimanche est une idée qui est soutenue par la population et qui, certainement, va être choisie, je l'espère.
Annick Coupé, bonjour.
Bonjour.
Annick Coupé, vous êtes la porte-parole de Solidaires, qui regroupe notamment les syndicats Sud. L'intersyndicale dont vous faites partie a adopté hier matin l'idée que défendait François Chirac. Il y aura de nouvelles manifestations samedi prochain, samedi, donc sans grève. Elles seront suivies 10 jours après d'une autre journée d'action, le 12 octobre, un mardi, donc cette fois avec grève. Mais vous, vous plaidiez pour des grèves reconductibles. Vous n'avez pas signé le communiqué. Pourquoi vous vous êtes néanmoins rallié à Solidaires et chez Sud à cette décision d'une grande journée de manifestation samedi? Pourquoi?
Tout simplement parce que le gouvernement pensait en avoir fini avec la contestation de sa loi. Jeudi, alors qu'il y avait 3 millions de manifestants dans tout le pays et que ce mouvement s'enracine et dure, eh bien le gouvernement a eu une fois de plus une attitude extrêmement méprisante. Il ne veut rien savoir, donc il faut monter le rapport de force. Et pour Solidaires, nous voulons articuler à la fois ce qui peut se passer dans les entreprises où se discute la question de grève reconductible, même si c'est une question difficile parce que les questions de pouvoir d'achat sont importantes, mais l'idée aussi d'une nouvelle manifestation extrêmement importante, et nous pensons effectivement que le samedi 2 octobre, nous pouvons être des millions dans la rue à nouveau, et ça prendra aussi l'idée de manifestation citoyenne, parce que la question des retraites, c'est pas seulement un enjeu de retraite, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu de solidarité entre les générations et de répartition des richesses.
Autrement dit, même vous, à Solidaires et chez Sud, vous acceptez cette idée que la manifestation est une arme peut-être plus efficace que la grève dans un pays où il y a... moins de 8% de syndiqués.
Mais hein. Je pense que pour nous, nous n'opposons pas les deux. Depuis le début, nous disons que ce mouvement social, il se construit à la fois par le nombre de grévistes et à la fois par le nombre de manifestants.
Oui, mais jeudi, vous avez entendu François Chirac, il y avait, dans une manifestation d'ampleur comparable, il y avait quand même moins de grévistes.
Oui, dans le secteur public, un tout petit
Pourquoi
peu moins. Mais parce que deux grèves dans le mois, évidemment, c'est dur. quand on a des salaires qui sont pas mirobolants. Mais je pense quand même.
À quoi voyez-vous que le mouvement s'enracine? Puisque vous disiez le mouvement s'enracine.
Écoutez, moi je constate, alors c'est peut-être symbolique, mais par exemple, l'île de Ouessant, il y a eu 200 manifestants. Ça veut dire que dans le pays, il y a eu plus de manifestations, et notamment dans les petites et moyennes villes, il y a eu plus de manifestants que le 7 septembre. Et le mouvement s'enracine parce qu'effectivement, sondage après sondage, l'opinion publique continue à dire que cette réforme est injuste.
Vous, vous auriez voulu qu'on n'attende pas le 12 octobre pour faire de nouvelles grèves?
Tout simplement parce qu'on sait que dans cette affaire, il y a une question de calendrier. Le gouvernement joue avec le calendrier depuis le début, un calendrier extrêmement resserré et antidémocratique. Donc effectivement, nous avons plaidé pour que ça soit un peu plus vite. Maintenant, la décision majoritaire est le 12 octobre. Nous allons en discuter à Solidaires, mais d'ores et déjà sur la journée du 2 octobre, nous allons tout faire pour qu'elle soit beaucoup plus massive encore que le 7.
Et vous avez dit qu'avant, s'il y avait des grèves qui se déclenchaient,
nous les soutiendrons, bien sûr.
S'il n'y en a pas, est-ce que ça ne sera pas la démonstration que vous aviez tort?
Écoutez, je ne crois pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, la question de grève, c'est d'abord une question qui se concerne et qui se discute par les salariés. Donc, en ce qui concerne Solidaires, notre rôle est de proposer, de discuter avec les salariés. Et cette question de grève reconductible, ce n'est pas seulement chez Solidaires qu'elle se discute. Je constate, par exemple, qu'à Total, dans les raffineries, dans le secteur de la raffinerie pétrolière, eh bien, les équipes CGT mettent en avant cette idée-là. Et la réalisent d'ailleurs, parce qu'hier, il y avait un certain nombre de dépôts qui étaient en grève. Donc c'est une question qui se pose parce qu'on voit bien que face à ce gouvernement, il faut monter le rapport de force.
Oui, mais qu'est-ce que vous répondez à l'objection que vous font François Chérac et Bernard Thibault qu'en radicalisant le mouvement, les syndicats prendraient le risque de se voir retourner contre eux l'opinion publique?
Moi, je crois que ce n'est pas les syndicats qui radicalisent le mouvement, c'est le gouvernement par son attitude intransigeante. Donc on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de monter le rapport de force. Monter le rapport de force, c'est à la fois les manifestations, d'où l'enjeu du samedi 2 octobre, mais là où c'est possible, effectivement, la question de grève reconductible, l'idée est d'arriver à un mouvement d'ensemble pour bloquer cette réforme qui est vraiment scandaleuse.
Vous ne cessez de vous référer au CPE qui a fini par être retiré alors qu'il avait été voté.
Absolument, en 2005.
Mais enfin, à l'époque, Jacques Chirac finissait son deuxième mandat, il y avait des débats au sein même de la majorité. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Nicolas Sarkozy fait de cette réforme des retraites un des piliers de son quinquennat. Vous avez entendu le Premier ministre, un gouvernement... Gouverner, c'est aussi savoir dire non.
Bien sûr, mais moi je constate aussi que ce gouvernement, il est en difficulté aujourd'hui. Il y a 6 mois, il pensait que cette réforme des retraites passerait très facilement, simplement avec l'idée qu'on vit plus vieux, faut travailler plus longtemps. Or aujourd'hui, majoritairement, la population ne marche pas dans cette idée. Donc je pense que c'est le gouvernement qui est en difficulté, contrairement à ce qu'il dit. Et je pense par ailleurs, il est aussi en difficulté par rapport à un certain nombre d'affaires qu'il y a eu cet été.
Est-ce que vous, vous attendez des sénateurs quelque chose où vous n'en attendez rien?
Écoutez,
à Solidaires et chez Sud.
Mais je pense que ce qui se passera au Sénat, ça dépendra de ce qui se passe dans la rue. Je pense que les sénateurs, peut-être, sont un peu plus sensibles à ce qui se passe dans la réalité du terrain que ne l'ont été les députés de la majorité. Mais en tout état de cause, nous savons que c'est le rapport de force qui fera bouger les choses, parce que les choses, elles se décident quand même beaucoup à l'Élysée.
Alors, imaginons, hypothèse qui ne semble pas se réaliser, mais imaginons qu'on renonce de demander aux femmes qui n'ont pas leurs années de cotisation de pas attendre 67 ans pour ne pas être pénalisées par une décote. Imaginons. On renonce. Est-ce que vous considéreriez que c'est un progrès?
Tout ce qui ira dans le sens d'affaiblir les mesures centrales de cette réforme qui sont les 62 ans, les 67 ans, sera évidemment mieux que rien.
Donc vous n'êtes pas sur la ligne totalement du retrait. En réalité,
mais
vous
acceptez... Bien sûr que si. Mais notre mot d'ordre, c'est celui du retrait. Mais après, franchement, moi j'attends de voir ce qui se passera, parce que jusqu'à présent et jusqu'à hier encore, le gouvernement dit qu'il ne touchera pas à l'affaire des 65 et des 67 ans. Donc franchement, attendons de voir. Mais effectivement, nous voulons obtenir le retrait. Mais après, on verra l'état du rapport de force. Est-ce qu'on sera capable de gagner, d'imposer? Mais encore une fois, la meilleure solution, y compris pour un gouvernement responsable, serait d'arrêter la procédure, de remettre tout à plat et d'engager une véritable négociation, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent.
Sur les femmes et la retraite, je voudrais vous faire écouter ce que disait cette semaine à Marc-Olivier Fogiel, Laurence Parisot.
Je suis libérale, mais je suis aussi féministe. Est-ce qu'il faut corriger cette injustice au moment de la retraite? Je suis perplexe. Parce que si vous le faites au moment de la retraite, cela équivaut à dire, par exemple en baissant l'âge légal de départ à la retraite des femmes par rapport aux hommes, cela équivaut à entériner cette inégalité de fait. Parce que si vous dites désormais, eh bien les femmes peuvent partir avant, Ça veut dire, premièrement, qu'une fois de plus, nous ne sommes pas les égales des hommes. Deuxièmement, ça veut dire que d'une certaine façon, parce que ça aura un coût, que le travail des femmes coûte plus cher que le travail des hommes. Et puis, troisièmement, ça voudra dire quoi ? Puisque les femmes, quoi qu'il arrive, on va dire, elles vont travailler moins longtemps que les hommes. Ça veut dire moins d'espérance de belles carrières que les hommes.
Vous pensez qu'on combat l'inégalité homme-femme par les retraites ?
D'abord, non, mais on n'amplifie pas.
Non, vous dites non, oui.
Non, mais laissez-moi finir. Simplement, effectivement, c'est pas les retraites sont que effectivement ce qui s'est passé dans la vie, dans la carrière professionnelle. Mais par contre, cette réforme, elle va aggraver les inégalités. Donc. Bon, par ailleurs, que Mme Parisot soit féministe, c'est quand même un scoop, parce que ce qui se passe dans la majorité des entreprises dans ce pays, c'est quand même 25% d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Mais sur le fond, sur la question des 67 ans et des 65 ans, nous, nous ne demandons pas une mesure spécifique pour les femmes. Nous disons simplement qu'obliger les gens à travailler jusqu'à 62 ans et obliger les gens à travailler jusqu'à 67 ans pour ne pas avoir de décote, ça va pénaliser en particulier les femmes. Donc, c'est le cœur de cette réforme qui est injuste, parce que ça pénalise les femmes, ça pénalise les jeunes, parce qu'effectivement, en obligeant à travailler jusqu'à 62 ans, c'est autant d'emplois qui ne seront pas offerts aux jeunes sur le marché du travail, alors que le taux de chômage est déjà très important. Et on pénalise aussi les gens qui ont eu les carrières les plus difficiles, les carrières pénibles, qui ont commencé à travailler à 18 ans. Donc franchement, personne n'a à gagner dans cette réforme. Ni les hommes, ni les femmes, ni les jeunes, ni les personnes qui ont eu des carrières pénibles.
Merci Annie Coupé, vous êtes syndicaliste, la porte-parole de Solidaires et Sud. Après les pubs, un homme politique pour parler de la menace terroriste avant d'être un homme politique. Il a fait face au terrorisme comme magistrat. Alain Marceau.
Dominique Souchier sur Europe 1.
C'est arrivé cette semaine jusqu'à 10h.
Mercredi matin, chez Jean-Pierre Elkabbach, ce que disait sur la menace terroriste en France, précisément le directeur général de la police nationale, Frédéric Pechenard.
Nous avons des indications sérieuses émanant de renseignements fiables, nous disant qu'il y a un risque d'attentat important. Voilà. Il y a deux catégories de cibles que peuvent atteindre ACMI aujourd'hui. C'est soit une personnalité, donc un assassinat ciblé. Nous craignons ça, bien sûr. Alors, deuxième point, bien sûr, c'est les attentats que peut connaître ACMI. À notre connaissance, ACMI n'a pas les moyens de faire un attentat spécifique, nucléaire, radiologique, biologique. Donc ce sera probablement, on peut s'y attendre du moins, un attentat un peu plus classique avec une bombe. Et évidemment, pour faire le maximum de dégâts, ça sera vraisemblablement dans un endroit où il y a beaucoup de monde.
C'est-à-dire les transports.
Ça peut être les transports, ça peut être les grands magasins, ça peut être des rassemblements. Enfin, malheureusement, les cibles éventuelles ne manquent pas.
Et aussi, ce que disait Frédéric Pechenard sur ce qu'on a répété plusieurs jours, qu'un attentat pourrait être commis en France par une femme kamikaze.
C'est une information qu'on a eue qui, aujourd'hui, sans rentrer dans les détails opérationnels, nous paraît peu crédible.
Alain Marceau, bonjour.
Bonjour.
Avant de faire de la politique, vous êtes aujourd'hui à l'UMP. Dans les années 80, vous étiez juge antiterroriste, puis vous avez fait face à la menace terroriste comme procureur, en devenant le chef du service central de lutte antiterroriste. Alain Marceau, quand le patron de la police nationale dément aussi catégoriquement une information à laquelle on a pourtant cru pendant plusieurs jours, est-ce qu'il ne faudrait pas se demander immédiatement pourquoi et comment on y a cru ? Est-ce que cette question-là n'est pas autrement plus importante que beaucoup d'autres débats qu'on a eus cette semaine, notamment lors des différentes journées parlementaires ? Est-ce que ce n'est pas ça une question cruciale ? Essentiel.
C'est bien sûr très important, mais j'allais dire, cher monsieur Souchier, que c'est un peu de votre faute. De votre faute à vous les journalistes, parce que vous n'arrêtez pas d'inviter des spécialistes autoproclamés du terrorisme ou de la lutte antiterroriste qui n'ont rien à dire, alors qu'ils inventent et qui font...
La formation n'est pas arrivée comme ça, elle n'est pas arrivée par un soi-disant spécialiste. On l'a lu dans un journal, on a même lu dans le Figaro, par exemple... que c'était un renseignement qui venait des services secrets algériens.
Oui, mais écoutez, je crois qu'il faut être sérieux dans ce domaine. Les renseignements qui arrivent des services secrets algériens, nous en avons reçu tous les jours, tous les ans, de plus en plus fantaisistes. Et s'il y a encore quelqu'un dans ce pays qui croit aux renseignements en provenance des services secrets algériens, il ne mérite pas d'occuper la place qu'il occupe. Donc je crois qu'il faut être sérieux dans ces affaires. Vous savez, on assiste à une recomposition totale du terrorisme. Le terrorisme maintenant...
Mais quand une rumeur s'installe comme ça, est-ce que ce n'est pas le devoir du gouvernement de pas attendre plusieurs jours pour y mettre un terme.
Mais le gouvernement, il fait comme tout le monde, il ne sait pas grand-chose. excusez-moi de vous dire ça, mais en matière de terrorisme, on a des suppositions. On essaye de retenir toutes les hypothèses. Et d'ailleurs, l'hypothèse d'une femme kamikaze était un peu devenue à la mode. Ça courait depuis pas mal de temps. Effectivement, ça se passe à l'étranger, ça se passe au Pakistan, en Afghanistan et ailleurs. Alors pourquoi pas en France?
Je vais vous dire, au passage, c'est le sujet du prochain roman policier de Jean-Louis Debray, qui est demain matin mon invité. Ah ben, mais lui, il fait de la fiction.
Oui, il fait de la fiction. Il a lui aussi beaucoup d'imagination. Pourquoi pas? Après tout, ça pourra faire vendre le livre. Mais enfin, il faut être sérieux un tout petit peu dans ce genre d'affaires. Bien sûr que nous pouvons avoir des attentats commis sur le territoire français. Tout simplement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont français et nés en France. Les Américains se sont rendus compte l'autre jour que la menace, elle venait d'Américains complètement intégrés, y compris dans une banque d'affaires américaine. C'est la même chose en France. Et nous sommes sans doute à la veille de ce que j'appellerais de micro-attentats, comme il existe de micro-crédits. Je crois qu'effectivement, c'est ce dont il faut tenir compte aujourd'hui au niveau national. Mais la véritable menace, elle n'est pas là aujourd'hui. La recomposition, c'est quoi? C'est tout simplement les risques qui existent sur nos concitoyens à l'étranger. Et on le voit, on l'a vu effectivement en Afghanistan, c'est aujourd'hui au Sahara ou dans l'Afrique subsaharienne.
Là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire qui n'a pas été fait au Niger?
Au Niger, c'est autre chose. Là, il s'agit de la protection de citoyens qui travaillent pour des. Vous parlez du Niger, pardon. Oui, là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Eh bien, peut-être que les entreprises privées auraient dû prendre des précautions, mais c'est plus facile à dire aujourd'hui que c'est arrivé qu'avant. Mais je crois qu'effectivement, la responsabilité de l'État d'une part, mais aussi des entreprises qui envoient nos concitoyens travailler sur place dans les zones à risque, vous savez. C'est des états de non-droit. C'est dans des endroits où il n'y a pas de droit, où on peut séquestrer sans gros risque des gens et les retenir pour mettre en place la torture sur la France. Eh bien, tout simplement, il faut qu'on prenne des mesures de sécurité draconiennes.
Ça va coûter cher. Vous avez dit l'État. C'est à l'État de prendre ces mesures.
L'État, parce qu'il a des Français à l'étranger, ça s'appelle les postes consulaires et les postes diplomatiques. Bien sûr que nous avons des fonctionnaires à l'étranger qui courent aussi des risques, mais il y a aussi les entreprises.
Mais quelles mesures?
Les mesures de protection personnelle. Je vais vous dire, il m'arrive d'aller de temps en temps dans des zones extrêmement risquées. Je voyage en voiture blindée, j'en ai peut-être les moyens. Je voyage en voiture blindée avec des gardes du corps qui sont armés.
Mais tous les Français qui travaillent dans des zones à risque
ne peuvent pas le faire, hélas. Voilà. Et donc il va falloir s'habituer à avoir aujourd'hui de plus en plus de Français enlevés, et de plus en plus l'État sera sous pression, il sera sous chantage. Aujourd'hui, c'est la France que l'on fait chanter, on va pouvoir la faire chanter pendant quelques mois, quelques années. Souvenez-vous de 1986 quand vos confrères journalistes et autres ont été enlevés. La France a été prise en otage, nous avons payé cher.
Ça fait 5 ans, Alain Marceau, ça fait depuis les attentats de Londres, que la France est dans le plan Vigipirate au niveau rouge. Alors quand la menace augmente, comment faire dès lors qu'au-dessus du rouge il y a écarlate? Mais écarlate, c'est le pays paralysé.
Oui, c'est le pays paralysé, c'est presque l'état de guerre. Non, je crois qu'aujourd'hui il faut faire confiance aux services de renseignement, il faut simplement obtenir du renseignement et toujours plus de renseignement de la part de groupes qui sont des groupes totalement franchisés. Vous savez, il n'y a pas M. Ben Laden qui commande du fin fond du Pakistan ou de l'Afghanistan, y compris ACMI. Moi, quand on me dit ACMI, c'est Al-Qaïda dans le désert, je dis c'est totalement faux. Ces gens-là n'ont strictement aucune relation avec Al-Qaïda central, si je puis dire. C'est pas le Soviet suprême. Ce sont des gens totalement franchisés, autonomes, et qui réagissent de manière opportuniste, ils réagissent à l'actualité. L'affaire de la burqa, l'affaire tout simplement de la politique française à l'égard des pays arabes, c'est cela qui motive.
La France est aujourd'hui plus menacée qu'elle ne l'était.
Oui, la France est à la mode, je pense, avec les islamistes aujourd'hui qui ont envie de régler le compte à la France, tout simplement, parce que nous sommes la France, parce que nous faisons ce que nous faisons, parce que nous avons la politique que nous avons à la fois en France, mais aussi à l'étranger.
Est-ce qu'à votre avis, Al-Qaïda au Maghreb pourrait mener une action terroriste en France comme elle en a mené une au Niger?
Il faudrait demander aux grands spécialistes, et moi je pense que non. Effectivement, en France, je vous ai dit que le risque, ce sont des groupes, entre guillemets, nationaux, voire un seul individu, qui répond à une actualité de manière totalement opportuniste et qui montera de micro-attentats. Les micro-attentats, ça peut faire aussi beaucoup de mal. Mais je pense plutôt à ça. Je ne pense pas à une organisation structurée comme nous en avons connu dans les années 1986 ou 1995. D'un autre côté, il faut savoir effectivement que nous pouvons de temps en temps importer des gens dangereux.
Avant, on disait il faut protéger nos frontières. Ça n'a plus beaucoup de sens.
Ça passe plus par les frontières. Maintenant, ils sont déjà là.
La preuve, ce qui arrive tous les jours, y compris ce matin, quoi. Un avion de ligne à destination du Pakistan qui se pose en urgence en Suède à la suite d'une alerte à la bombe. Bon, pour le moment, on ne sait pas plus, mais voilà.
Regardez les Américains qui ont mis en place un système de protection des frontières absolument efficace, terrifiant. Même nous, Français, nous avons du mal à rentrer aux États-Unis. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ce sont des Américains intégrés qui veulent poser des bombes. Et c'est exactement la même chose pour la France. Je crois qu'il va falloir se réveiller un tout petit peu, arrêter de raconter des bêtises.
Vous pouvez dire combien la France a d'otages? De Français sont otages,
nous avons aujourd'hui 10 otages français dans différents pays. Nous retrouvons finalement la situation l'application de 1986, et Dieu sait que nous avons souffert. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de mettre sur la France un système de torture au goutte à goutte, et nous allons être torturés. Mais vous, journaliste, vous avez une véritable question à vous poser. Est-ce que vous devez donner la publicité que vous donnez, notamment sur France 2, en enlèvement de journalistes? Est-ce que vous n'avez pas donné des
armes? On y a répondu comme nous pensons y avoir bien
oui,
répondu.
C'est bien pour les familles, c'est bien qu'on ne les oublie pas, mais c'est aussi donner des armes à ceux qui les ont enlevées. Vous faites monter les tarifs.
Hein. Oui, enfin, bon. Merci Alain Marceau. Après les pubs, un professeur d'histoire, Simon Grivet, qui écrit en ce moment une thèse sur la peine de mort aux États-Unis.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
9h-10h tous les samedis avec Dominique Souchier.
Jeudi, aux États-Unis, dans l'État de Virginie, la 12e femme depuis le rétablissement de la peine de mort. Le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Jean-Philippe Ballas.
C'est la voix de Teresa Lewis au téléphone dans sa prison, l'un de ses derniers appels. Elle fredonne sa chanson préférée, I Need a Miracle, j'ai besoin d'un miracle. Jusqu'au bout, les défenseurs de la jeune femme auront manifesté pour qu'on épargne cette prisonnière intellectuellement faible. Un QI de 72, quand le seuil de la déficience est légalement fixé à 70, elle est à la limite, dit un expert. Elle réagit comme une gamine de 12 ans, mais elle en a 41. Les juges estiment malgré tout que Teresa Lewis a suffisamment réfléchi. Le soir où elle a laissé la porte de sa caravane ouverte pour y faire entrer deux complices, ils ont abattu son mari et le fils de celui-ci. Une sombre histoire d'assurance-vie. La jeune femme a tout de suite avoué. En prison, elle s'est tournée vers la prière pour trouver la paix, dit-elle. Le communiqué est tombé en fin de soirée. Teresa Lewis a été exécutée par injection mortelle, décès prononcé à 21h13 au centre pénitentiaire de Greensville.
La revue L'Histoire publie un numéro spécial sur la peine de mort. Simon Grivet, bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes professeur agrégé d'histoire, vous signez un article de ce numéro spécial parce que vous préparez une thèse sur la peine de mort aux États-Unis. Peine de mort qui est toujours là, dans 35 des 50 États américains. Mais quand on dit toujours, ce que vous montrez dans votre article et que nous ignorons, c'est qu'aux États-Unis, ça n'a précisément pas toujours été le cas, et que les débats sur la peine de mort ont même commencé avec l'histoire des États-Unis. Hein.
Oui, absolument. Alors, à titre personnel, je me limite à la situation californienne, hein, et c'est aussi un point important. Il faut bien comprendre que ça se passe d'abord au niveau des États eux-mêmes. On a tendance à voir en France les États-Unis sous un angle sanguinaire depuis notamment la période Bush, hein, autant quand il était gouverneur du Texas où on a beaucoup exécuté que ensuite sous sa présidence. Les États-Unis ont un passé et une histoire abolitionniste très forte, hein, dès le temps des pères fondateurs. Certains pères fondateurs étaient de grands lecteurs de Beccaria.
C'est-à-dire qu'ils réclamaient l'abolition de la peine de mort. Les pères fondateurs des États-Unis.
Absolument, notamment Benjamin Rush a demandé l'abolition. Et ensuite, il y a eu beaucoup de débats. Et dès le milieu du 19e siècle, donc, on a trois États, le Rhode Island, le Michigan notamment, qui ont tout simplement aboli la peine de mort. Et d'autres États qui ont aboli, qui ont rétabli. Il y a eu des allers-retours grâce à la démocratie directe qui est beaucoup utilisée là-bas.
Mais vous racontez qu'au début de l'histoire des États-Unis, dès le début, hein, on voulait punir plus efficacement et plus humainement. Ça voulait dire quoi, ça,
alors,
plus humainement?
Oui, c'est à la fois l'idée, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu du tout en France, par exemple, puisque en France, dès la Révolution française, on adopte la guillotine, alors qu'aux États-Unis, il y a constamment cette recherche de la méthode d'exécution la plus efficace, la moins douloureuse possible, apparemment, et bon, moi j'ai tendance à dire la plus présentable.
La chaise électrique, voilà. S'est amenée dans l'État de New York.
Alors à la fin du 19e siècle, au moment où il y a une fascination extraordinaire pour l'électricité, au moment où Edison et Westinghouse se battent pour savoir quel va être le courant adopté alternatif ou continu à New York, hein, on adopte la chaise électrique parce qu'on a l'impression que ça va être moins douloureux.
Moins douloureux que la chambre à gaz, c'est ça
Alors la chambre à gaz vient plus tard, ouais. C'est une autre métamorphose qui se déroule à partir des années 1920, qui est l'espèce de rêve, de fantasme de tuer le condamné pendant son sommeil sans même qu'il s'en rende compte. En fait, ça, c'est impossible, hein. Et en réalité, dès le départ, on voit que le condamné est mal, souffre, etc. Mais il se produit un phénomène d'accoutumance, avec une, on voit l'inconscience qui arrive au bout d'une minute et demie, deux minutes. Et les observateurs de ces scènes d'exécution acceptent ce spectacle d'exécution. Et puis la dernière mutation, hein, c'est l'injection létale, qui est adoptée au départ surtout pour des questions financières. C'est-à-dire il s'agit de faire des économies parce qu'on veut pas réparer la chambre à gaz ou réparer la chaise électrique. Donc on adopte cette injection létale. Et en fait, elle pose elle-même beaucoup de problèmes.
Les premiers États à avoir aboli la peine de mort aux États-Unis, c'est les États du Nord.
Oui, hein. Du Nord, du Nord-Est plutôt.
Le clivage, il est toujours là.
Toujours.
Du Nord et États
toujours,
du Sud. Aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ?
Alors, on l'explique par le passé. Les États du Sud sont ceux où il y avait l'esclavage. Et on a des problèmes toujours raciaux et d'inégalités qui sont très forts. Et puis ce sont des États où la violence criminelle est plus importante. Hein. On a des taux de criminalité. Bon, d'une manière générale, aux États-Unis, les taux de criminalité sont 5 fois plus importants qu'en France. Hein. 5 ou 6 pour 100 000, tandis qu'on est à 1 pour 100 000 en France. Mais dans le Sud, c'est encore plus important. Donc il y a cette donnée-là qui est majeure.
Ce qu'on a déjà oublié, c'est qu'en 72... La
Absolument.
Peine de mort avait été abolie aux
Absolument.
États-Unis et qu'elle a été rétablie en 76 par la Cour suprême. Abolie par la Cour suprême, rétablie par la Cour suprême.
En fait, il serait plus exact de dire suspendue, puisque l'abolition, il n'y a que les électeurs qui peuvent la décider. Hein. Et oui, il y a eu un moment comme ça de réforme où la Cour suprême a décidé, au nom de certains amendements de la Constitution, d'obliger les États à changer et à offrir plus de garanties aux condamnés. Et si vous reprenez les livres de Robert Badinter qui parle dans l'exécution et l'abolition, enfin surtout dans l'exécution quand il défend Buffet et Bontemps, l'espoir qu'il a à ce moment-là, à l'été 72, vient des États-Unis qui viennent de suspendre la peine de mort et on a l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, il y a eu une telle réaction populaire, il y a eu tellement de votes, de protestations, une réaction conservatrice très forte, que les juges ont dû s'incliner d'une certaine manière et dire oui, les lois que vous avez réformées permettent, selon nous, une peine de mort qui est constitutionnelle et après tout c'est votre choix, assumez-le.
Bon, mais Robert Badinter, dans ce numéro, répète qu'il est convaincu qu'aux États-Unis, en réalité, la marche vers l'abolition de la peine de mort va en s'accélérant. Je vous remercie, Simon Grivet. Votre article, on peut le lire dans ce numéro spécial de la revue L'Histoire. Nous allons marquer une pause et accueillir Jeanne Balibar. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous allons accueillir cette semaine Jeanne Balibar.
Dominique Souchier sur Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
C'est arrivé cette semaine et cette semaine, mercredi, c'était le dernier jour de l'été. Et pour marquer cette dernière journée de l'été, qui a été magnifique sur toute la France, à Paris, au Théâtre de l'Odéon, la première représentation de la Cerisée de Tchekhov dans la mise en scène de Julie Brochen et avec pour jouer cette Cerisée, Jeanne Balibar. Jeanne Balibar, bonjour.
Bonjour.
Je ne pense pas que c'était fait exprès, mais c'est vrai que pour cette Cerisée de Tchekhov, que vous allez jouer pendant un mois à l'Odéon, j'ai trouvé formidable d'avoir choisi comme premier jour de la représentation le dernier jour de l'été, parce que dans la Cerisée, précisément, on dit adieu à ce qui est beau.
Oui, on dit adieu à ce qui est beau et on dit ça dans le blanc des cerisiers en fleurs, mais c'est la dernière pièce que Tchekhov a écrite, hein, et c'était, en fait, il est mort juste après, mais c'était pour lui le début d'un cycle de 3 pièces qui était un cycle sur le blanc. Et la deuxième pièce de ce cycle devait se passer au pôle Nord, c'est-à-dire dans l'hiver. Hein.
C'était son adieu à la vie, son testament.
Oui, c'est-à-dire qu'il l'a écrite en sachant qu'il savait très bien de quel mal il souffrait, c'est-à-dire de la tuberculose, et étant médecin, il savait bien qu'il en avait plus pour longtemps, je pense, quand il l'a écrite. Hein.
Alors, pour tous ceux qui sont en train de se demander, mais qu'est-ce que ça raconte déjà, la Cerisée, il faut commencer par là.
Oui, ça raconte l'histoire d'une femme qui revient de Paris, en Russie, et pour voir vendre et démanteler le domaine dans lequel, comme elle le dit, elle est née, et c'est là qu'ont vécu mon père, ma mère et mon grand-père, un domaine familial comme ça, une grande maison, et puis des hectares de cerisiers, qui ne servent plus à rien, parce qu'autrefois les cerises, on en faisait des confitures, comme dit le vieux serviteur, mais dans le monde naissant du début du XXe siècle, c'est plus en commercialisant des confitures de cerises qu'on peut maintenir une exploitation agricole de cette ampleur, et au-delà de ça, qu'on peut préserver le monde dans lequel on a vécu.
Le titre de la pièce, c'est « La cerisée », mais vous qui jouez cette femme, vous dites « ma cerisée ».
Oui, oui, je le dis toujours d'ailleurs avec un espèce de doute dans la voix, parce que je pense qu'il y a chez ce personnage une espèce d'incertitude sur son identité. Elle se souvient plus très bien des choses. Comme dit Marina Tsvetaeva, ce qu'on a oublié, c'est peut-être ce qui était le plus important pour soi. Elle a toujours un espèce de doute. Est-ce que c'est vraiment elle qui parle? Qu'est-ce que c'est que ce moi qui parle? Est-ce que ça m'appartient vraiment?
Elle a quitté plusieurs années son pays, la Russie. Là, elle y revient. Mais elle n'est pas seule à dire adieu. Hein. Il y a son frère, il y a sa famille, il y a les domestiques.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a de différent, elle?
Elle a une espèce de... C'est une force qui va, Lyubov. C'est comme un personnage de Victor Hugo, quelque part. Elle a une insouciance que les autres n'ont pas et qui est liée à sa capacité de vie, en fait. Pour moi, ce personnage, c'est un personnage qui est souvent traité sur le mode de la mélancolie. Alors, la mélancolie, elle est là, mais moi, j'essaye de pas la jouer, parce qu'au contraire, je pense que cette mélancolie, elle provient du choc entre la force de vie de ce personnage et les circonstances, et la force de l'histoire, quoi. L'histoire en marche.
De l'histoire en marche. Qu'est-ce qui commence dans la cerisée?
Je crois qu'on sait pas. Je crois que c'est ça qui est beau. Je crois que c'est une pièce où tous les personnages se situent sur le bord de quelque chose, et ne savent pas du tout ce qu'il y a derrière. Alors on peut y voir une image de la mort, mais c'est aussi une image de l'instant. À chaque instant, au fond, dans la vie, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et il y a une espèce de mystère de ce qui commence, au bord duquel on se tient et qu'on ne peut que regarder ignorant et éberlué.
Mais dans l'immense domaine de la cerisée qui est vendue, on va construire des pavillons pour les touristes. Il y a plus gai comme avenir. Hein. C'est notre monde qui arrive, qui présente là, Tchekhov.
Bah oui, oui, bien sûr. Ouais, 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 ouais. C'est même incroyable, parce que cette espèce de manie touristique du début du XXIe siècle, c'est curieux de le voir énoncer comme ça au début du XXe. Il dit, on va construire des pavillons pour les estivants.
Quand on parle de Tchekhov, on dit toujours, hein, en classe, on parle de la petite musique de Tchekhov.
Mm-hmm.
Mais avec votre voix et votre diction, on a l'impression que cette petite musique, vous avez voulu presque la casser pour qu'on l'entende autrement.
Oui, moi, vous savez, je veux rien. Hein, je fais,
ouais.
Je
vous
fais
êtes.
Ce qui vient. Les pièces de Tchekhov, ce sont effectivement des pièces musicales qui sont construites comme des partitions, avec des pauses, tout indiqué par lui, exactement comme une partition de musique. Je pense que cette musique, elle change à travers les époques, de la même façon qu'on n'interprétait pas Bach de la même manière au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, au XXe, au XXIe siècle. Ce qui donne la musique que nous, on propose là en ce moment à l'Odéon, c'est la confrontation entre les indications données par Tchekhov lui-même et puis la musique de chacun des interprètes qui est sur le plateau.
L'Express de cette semaine constate que cette année, comme jamais peut-être, on revient au théâtre, aux grands textes, aux classiques, à Tchekhov, à Musset, à Marivaux, à Hugo, joués eux aussi dans plusieurs mises en scène plusieurs fois. Comment vous l'interprétez, ce retour aux grands textes?
Ouais, vous croyez que c'est vrai, ça? Moi, j'ai l'impression que des grands textes, il y en a toujours, tout le temps, et tant mieux. Moi, je pense surtout qu'en temps de crise, et vu l'absence de conscience morale qui caractérise les pouvoirs publics à l'heure actuelle, et la manière dont ils refusent de donner aux institutions pourtant publiques et culturelles les moyens de travailler, c'est surtout qu'on n'a pas, il n'y a pas assez de moyens pour faire découvrir des choses que les gens connaissent pas.
Eh ben voilà, c'est dit. Jeanne Balibar fait toujours plusieurs choses à la fois, alors j'ai cherché et j'ai trouvé,
oui.
Lundi, Vous chantez avec Philippe Catherine.
Ah oui, oh, j'ai participé très très peu à son album qui va sortir lundi, oui. Ouais.
Les paroles sont moins compliquées que dans Tchekhov, hein.
Ah oui, j'aime tes fesses.
Bon, on a le droit de terminer l'émission là-dessus quand même.
Absolument, absolument.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Parce que j'aime tes fesses. J'aime tes fesses.
Bon, le sommaire de Mediapolis, Michel Fils,
Olivier Duhamel. Nicolas Sarkozy, peut-il rebondir? Faut-il renoncer à la stratégie de la droite, changer de Premier ministre?
Bon, qui
à la place de François Fillon? C'est dans Mediapolis tout à l'heure.
Bien, on a bien entendu quand même le sommaire, malgré cet indicatif.
Hein. Voilà, vous assumez complètement. Hein, hein? Voilà, que vous assumez complètement.
Et vous?
Mais moi aussi.
Eh bien voilà, très bien.
À la semaine prochaine. À demain, plutôt.
Ça peut faire un tube, hein, parce que c'est facile à retenir.
Tout à fait. Bon samedi sur Europe 1, ça me trouble.